Il est midi en temps universel, 14h ici à Paris, une heure de plus à Kiev. Le journal international avec Olivier Sherman.
Bonjour à toutes et à tous. Indignation internationale après le lourd bilan de la frappe russe en Ukraine qui a tué hier au moins 34 civils et fait plus d'une centaine de blessés. Une attaque meurtrière en pleine célébration religieuse à Soumy, une ville du nord-est de l'Ukraine. Nous retrouverons dans quelques instants notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz. Donald Trump va annoncer dans la semaine des droits de douane sur les semi-conducteurs entrant aux États-Unis, un marché de 600 milliards de dollars. Le président américain en fait une priorité nationale, nous dira Anne Verdaguer. La poursuite des opérations militaires israéliennes à Gaza et les hôpitaux palestiniens qui sont la cible des frappes. Le dernier en date, celui de ce week-end, l'hôpital Al-Ali, en partie détruit par les tirs. Reportage et témoignage. En Équateur, le président sortant, Daniel Noboa, déclaré vainqueur du second tour de l'élection présidentielle. Son opposante de gauche, Luisa González, ne reconnaît pas les résultats et réclame un recomptage des voix. Les détails avec notre correspondant à Quito, Eric Sanson. Enfin, la célèbre chanteuse américaine Katy Perry embarque tout à l'heure dans une fusée. Pour un bref voyage dans l'espace, elle sera aux côtés de 5 autres femmes, dont la fiancée de Jeff Bezos. Il s'agit du premier vol dans l'espace 100% féminin, nous expliquera Simon Rosé. La guerre en Ukraine, une frappe russe qui suscite l'indignation de la communauté internationale. C'est la plus meurtrière à toucher une zone civile ukrainienne depuis des mois. 2 missiles balistiques russes ont touché le cœur de la ville de Soumy. Le bilan est très lourd, 34 morts et plus d'une centaine de blessés. La population est sous le choc et Kiev avertit que la Russie n'a aucune intention de cesser ses attaques. Moscou affirme ce matin ne frapper que des cibles liées à l'armée. On fait le point tout de suite avec notre correspondante en Ukraine, Emmanuel Chaz.
Les images du centre-ville de Soumy détruit n'ont pas fini de choquer ici en Ukraine où plusieurs régions ont décrété un jour de deuil pour les 34 victimes de l'attaque d'hier sur une zone urbaine fortement fréquentée. Parmi ces victimes, 2 enfants ainsi qu'une musicienne de l'opéra symphonique de Soumy. Ces morts viennent rappeler que les civils sont les premières victimes de ces frappes sur des zones densément peuplées. Ces frappes ont lieu une semaine à peine après celle de Kryvyi Rih où 20 personnes sont mortes dont plusieurs enfants et ces attaques à répétition démoralisent la population. Il y a aussi un sentiment d'impuissance à contrer ce genre de frappe, d'où les appels répétés de Kiev aux alliés de l'Ukraine pour disposer de plus de moyens afin de se défendre contre de telles attaques aériennes. Mais l'heure n'est pas seulement au bilan. Hier, le renseignement ukrainien a annoncé avoir identifié les brigades russes ayant lancé ces frappes depuis la région voisine de Koursk. On voit donc une volonté de la part de l'Ukraine de trouver les responsables de telles actions en vue d'un éventuel jugement. Une manière aussi de rappeler au reste du monde que Kiev adhère au droit international alors que les attaques russes ont continué la nuit dernière, avec entre autres les villes d'Odessa, Kharkiv et Zaporizhia qui ont été touchées. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Dans l'actualité également, les États-Unis, les Européens et les Nations Unies qui ont fermement condamné donc ce bombardement. Et la Russie, elle, affirme avoir frappé une réunion de l'armée ukrainienne.
Oui, la Russie affirme avoir ciblé une réunion du commandement de l'armée ukrainienne à Soumy et accuse Kiev d'utiliser des civils comme boucliers humains en plaçant des installations militaires ou en organisant des événements auxquels participent des militaires au centre d'une ville densément peuplée. Voilà pour l'explication officielle russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, a fustigé la frappe un jour où les gens vont à l'église, a dénoncé une frappe inacceptable qui dépasse les limites de la décence. Donald Trump qualifie l'attaque d'horrible. C'est un crime de guerre grave, délibéré et voulu, a dénoncé le futur chancelier allemand Friedrich Merz. L'Allemagne qui pourrait changer de position sur les missiles de croisière. Après cette attaque sur la ville de Soumy, Berlin s'est dit ouvert à de telles livraisons, une option que le chancelier sortant Olaf Scholz avait toujours exclue de peur de voir l'Allemagne entraînée dans le conflit. Les explications de Nathalie Versieux.
Friedrich Merz l'avait évoqué pendant la campagne électorale. Il est ouvert sur la question des missiles de croisière Taurus, réclamés de longue date par Volodymyr Zelensky. Cela doit se faire en coopération avec nos partenaires européens, a précisé le futur chancelier, alors que la France et la Grande-Bretagne livrent déjà de tels systèmes à Kiev. L'armée ukrainienne doit sortir de la défensive, insiste Merz, Hertz. En cas d'attaque, elle doit par exemple pouvoir détruire la liaison terrestre entre la Russie et la Crimée où sont stationnées l'essentiel des réserves russes. Vladimir Poutine doit comprendre que cette guerre est pour lui sans issue, souligne le chef des conservateurs allemands qui sera investi le 6 mai. Ce serait pour l'Allemagne un changement de position radical sur le dossier, signe que l'affaire n'est pas encore entendue. Aucun mot sur l'État russe dans le contrat de coalition que la CDU vient de signer avec le SPD, le parti de Scholz, toujours frileux face à la Russie. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Et le Kremlin a dénoncé un risque d'escalade du conflit si l'Allemagne décidait finalement de fournir des missiles Taurus à Kiev. Donald Trump promet de nouveaux droits de douane visant les semi-conducteurs. L'annonce sera faite dans la semaine. Les puces électroniques, encore épargnées par la surtaxe générale de 10% contre la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis, sont au cœur de la rivalité commerciale entre la Chine et les États-Unis. Anne Verdaguer.
Oui, le marché des semi-conducteurs pèse près de 600 milliards de dollars. Ils sont au cœur de toute la chaîne de valeur technologique, des voitures aux smartphones, en passant par les appareils médicaux, les systèmes de défense. Autant dire que Donald Trump en fait une priorité nationale et qu'il fera tout pour que les États-Unis ne dépendent plus de pays étrangers pour leur approvisionnement, en particulier de la Chine. Les États-Unis qui aimeraient tripler leur capacité de fabrication de semi-conducteurs d'ici 2032, mais qui manquent de main-d'œuvre qualifiée. Au-delà de la préoccupation économique, cette dépendance aux semi-conducteurs est aussi une question de sécurité nationale pour Donald Trump, qui a d'ailleurs confirmé l'ouverture d'une enquête visant le secteur des semi-conducteurs. Nous regardons toute la chaîne d'approvisionnement des appareils électroniques, a-t-il ajouté. Alors, quid des smartphones, des ordinateurs et des autres produits issus de la tech sur lesquels Donald Trump a annoncé une exemption de surtaxe ce week-end? L'imprévisible président américain pourrait-il revenir sur sa décision? Il a en tout cas précisé qu'aucun pays n'était tiré d'affaires face à son offensive douanière et donc a priori aucun secteur.
Anne Verdaguer du service économie de RFI.
De nouvelles tensions entre la France et l'Algérie.
Le ton remonte d'un cran entre les deux pays. Alger demande à 12 fonctionnaires français en poste en Algérie de quitter le territoire. Cette décision est une réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens en France. Le ministre français des Affaires étrangères demande aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion sans lien avec la procédure judiciaire en cours. Jean-Noël Barrot indique aussi que si la décision de renvoyer ces agents était maintenue, alors la France répondra immédiatement. Le président chinois commence sa tournée en Asie du Sud-Est. Xi Jinping est arrivé au Vietnam. Il se rendra ensuite en Malaisie et au Cambodge. Le but est de renforcer les relations commerciales de Pékin en pleine guerre douanière avec Washington. Xi Jinping a dès son arrivée dénoncé le protectionnisme qui ne mène nulle part. Aucun gagnant ne peut émerger d'un tel conflit commercial.
Et on y reviendra dans quelques minutes avec Emmanuel Véron, spécialiste de la Chine contemporaine. En Corée du Sud, Olivier, ouverture du procès pénal du président destitué Yoon Suk-yeol.
Au premier jour de l'audience, il nie avoir commis tout acte d'insurrection lors de sa tentative d'imposer la loi martiale en décembre dernier. Destitué par la Cour constitutionnelle il y a 10 jours, après avoir été suspendu de ses fonctions mi-décembre, Yoon Suk-yeol doit désormais s'expliquer au pénal. Malgré les très lourdes peines encourues, il comparaît libre, sa détention provisoire ayant été annulée pour vice de procédure. Le président destitué risque une peine d'emprisonnement à perpétuité, voire la peine capitale, même si la Corée du Sud n'a plus procédé à une exécution depuis plusieurs décennies. L'armée israélienne, qui a rompu le cessez-le-feu il y a bientôt un mois, a prévenu samedi qu'elle prévoyait d'étendre son offensive. Parmi les cibles, dans la nuit de dimanche, l'un des derniers hôpitaux encore actifs de l'enclave, l'hôpital Al-Ali. Pas de victimes directes à déplorer, mais un système de santé, encore une fois, touché au cœur. À Gaza, Rami El-Maghari, à Jérusalem, Abla Jonaïdi.
Un amas de béton, de verre et de métal, voilà l'état de la cour de l'hôpital au lendemain de la frappe. Mounir Al-Barsh, directeur des hôpitaux du ministère de la Santé de Gaza, contemple ce triste spectacle.
L'occupant ne veut pas d'un système de santé. Il n'a aucun égard pour le droit international et le droit humanitaire. Son objectif, c'est juste de tout raser. Les hôpitaux, les pharmacies, même l'église de l'hôpital a été touchée.
L'hôpital Al-Ahli était l'un des rares hôpitaux encore fonctionnels à Gaza. Il recevait 300 cas par jour, selon son directeur. Péniblement, il faudra trouver des alternatives dans d'autres structures moins dotées. Un défi trop grand, soupire Samer Arata, Shamgar, médecin américain volontaire auprès de la Palestinian American Brigade.
Tout le monde est épuisé ici. Il n'y a plus rien d'autre que la peur, l'incertitude, le deuil, le chaos. Les gens sont fatigués, ils ont faim, soif. Ils sont blessés physiquement, mais aussi psychologiquement.
Samer Attar était bénévole dans cet hôpital. Il a servi en Syrie, en Ukraine, auparavant. À chaque fois, le système de santé est pris pour cible, souffle le chirurgien. Rami El Megari, Gaza, Abla Junaidi, Jérusalem, RFI.
En Syrie, un puissant groupe armé appelé la 8e brigade a annoncé hier sa dissolution et son rattachement à la nouvelle armée syrienne, composée de plusieurs milliers d'hommes. Elle contrôlait jusqu'ici la province de Dera, berceau de la révolution de 2011 dans le sud du pays. Manon Chaplin, vous êtes notre correspondante en Syrie. Cette annonce est un signe positif pour la transition syrienne et l'unification du pays.
C'est dans une courte vidéo que Mohamed Alourani, porte-parole de la 8e brigade, a annoncé hier sa dissolution. Cette décision s'inscrit dans une volonté de préserver l'unité nationale, de renforcer la sécurité et la stabilité, a-t-il déclaré, également de réaffirmer leur engagement envers la souveraineté du nouvel État syrien. Cette dissolution était en négociation depuis plusieurs semaines. Elle intervient deux jours seulement après de violents combats à Bochra al-Sham, dans la province de Dera, où la 8e brigade y avait affronté un autre groupe local. Les notables du coin avaient ensuite négocié l'entrée des forces de sécurité dans la ville. Jusqu'ici, la 8e brigade qui contrôle la province de Dera avait refusé de déposer les armes. Elle a désormais négocié de pouvoir garder ses officiers dans la zone, de continuer à y maintenir la sécurité tout en étant officiellement intégrée au ministère de la Défense. Depuis la chute du régime, le nouveau pouvoir, qui ne dispose pas de suffisamment d'hommes pour contrôler l'entièreté du territoire, doit négocier avec les différentes factions. Déjà, début février, le gouvernement syrien avait annoncé la dissolution de tous les groupes armés. Manon Chaplin, à Damas, RFI.
En Équateur, le président sortant Daniel Noboa a été élu hier avec près de 56% des suffrages à l'issue d'une journée sans incident marquée par une participation record de plus de 84% des 13,7 millions d'électeurs équatoriens. Un résultat que son adversaire socialiste refuse de reconnaître. Les détails avec notre correspondant en Équateur, Eric Sanson.
La candidate socialiste Luisa González n'a pas attendu que la présidente du Conseil national électoral reconnaisse la victoire du président sortant pour demander que soient recomptés tous les bulletins. Elle conteste les résultats officiels.
Je veux être très clair et empathique. La révolution citoyenne a toujours reconnu la défaite lors de précédentes élections, lorsque les chiffres et les sondages le démontraient ainsi. Aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas les résultats.
Il faut dire que cette défaite par 11 points d'écart a surpris après un premier tour durant lequel Luisa González avait pratiquement fait jeu égal avec le président Daniel Noboa. Ce dernier, durant la campagne, a dramatisé le débat en accusant son adversaire de vouloir mettre fin à la dollarisation, plébiscitée par la population, et mis en avant son action résolue contre les cartels et les gangs qui ensanglantent le pays.
L'Équateur veut être différent. L'Équateur ne veut pas retourner au passé, mais aller de l'avant. Les Équatoriens veulent une vie meilleure et ont choisi un projet pour obtenir cette vie meilleure qu'ils recherchent tant.
Noboa souhaite réformer la Constitution pour permettre le retour de bases étrangères et a demandé l'aide de la communauté internationale contre les trafiquants de drogue. Eric Sanson, Quito, RFI.
Décollage prévu dans 1h30, 15h30 à Paris, Katy Perry, la superstar américaine, va s'envoler dans l'espace. Un vol touristique à bord de la fusée de Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, aussi patron d'Amazon. Mission de quelques minutes en apesanteur pour la chanteuse. C'est du tourisme spatial pour elle et ses 5 coéquipières. Car la nouveauté, Simon Rosé, c'est que l'équipage est entièrement féminin.
Et oui, Olivier, mine de rien, c'est du jamais vu depuis le 16 juin 1963 et le vol de Valentina Tereshkova, première femme dans l'espace, alors seule à bord de la capsule soviétique Vostok 6, équipage donc alors par définition entièrement féminin. 62 ans plus tard, l'intérêt de la mission de la capsule New Shepard est bien plus anecdotique. Il s'agit en effet à 6 touristes spatiales de s'encanailler en apesanteur quelques minutes à peine juste au-dessus de la ligne de Kármán qui marque les 100 km d'altitude et la frontière frontière officielle de l'espace avant de redescendre sur Terre. Équipage de 6 femmes, donc Aisha Bow, Amanda Nguyen, Gail King, Kerianne Flynn, Katy Perry et Lauren Sanchez, qui n'est autre que la fiancée de Jeff Bezos, le patron de Blue Origin, la société qui organise tout ça. Journaliste, pop star, scientifique, réalisatrice de films, les combinaisons qu'elle porte pour ce lancement ont même été redessinées pour l'occasion. Plus moulantes que celles des hommes, elles répondent à 3 exigences selon Katy Perry: efficacité, mode et élégance. Au-delà de l'anecdote, toutes les 6 déclarent vouloir mettre en avant l'aspect inspirationnel de leur voyage et souhaitent faire rêver les petites filles du monde entier.
Merci beaucoup Simon Rosé, chef du service environnement, climat et donc espace de RFI. La suite de RFI Midi maintenant avec vous Clotilde Dumais.
Et c'était le journal d'Olivier Sherman, on s'envole sur la planète sport. Bonjour Eric Mamrut.
Bonjour Clotilde, bonjour tout le monde.
Et ce n'est pas anodin, le golf à l'honneur pour une fois pour entamer le journal des sports avec un homme, Rory McIlroy, qui est entré cette nuit dans l'histoire de ce sport.
Le Nord-Irlandais a enfin remporté le Masters d'Augusta aux États-Unis, le seul grand tournoi qui manquait à son palmarès. Le golfeur de 35 ans s'est imposé à l'issue d'une dernière journée à suspense, ne prenant le meilleur sur l'anglais Justin Rose qu'à l'issue d'un play-off, une vraie libération pour Rory McIlroy, en larmes après le putt vainqueur et qui aura mis 11 ans à décrocher ce 4e majeur. Il les détient tous désormais, avec également l'US Open, le British Open et le PGA Championship, devenant ainsi l'égal de 5 autres golfeurs auteurs de cette passe de 4 durant leur carrière: Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Ben Hogan et Gene Sarazen. 11 ans d'attente et de stress, mais désormais le Nord-Irlandais est libéré et très soulagé. Rory McIlroy.
Je porte ce fardeau depuis août 2014, ça fait presque 11 ans. Et ce n'est pas seulement le fait de gagner mon prochain majeur, mais le grand chelem en carrière, essayer de rejoindre un groupe de seulement 5 joueurs à l'avoir fait. Honnêtement, ce qui est remonté en moi sur le dernier green dans les playoffs, c'était au moins 11, si ce n'est 14 années d'émotions refoulées. C'était un poids lourd à porter et heureusement, maintenant, je n'ai plus à le faire. Ça me libère et je sais que je reviendrai ici chaque année, ce qui est agréable.
Rory McIlroy qui porte donc désormais la célèbre veste verte offerte traditionnellement vainqueur du Masters d'Augusta.
En tennis, Carlos Alcaraz redevient numéro 2 mondial.
L'Espagnol avait perdu cette place en octobre dernier au profit de l'Allemand Alexander Zverev, mais grâce à son premier sacre hier au Masters 1000 de Monte Carlo, aux dépens de l'Italien Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz lui repasse devant. Il reste néanmoins à distance du numéro 1 mondial Yannick Sinner, l'Italien actuellement suspendu. Gros gadin pour celui qui était le tenant du trophée à Monaco, Stefanos Tsitsipas. Le Grec perd 8 places pour se retrouver 16e mondial après s'être incliné en quart de finale. C'était face à Lorenzo Musetti, finaliste à l'arrivée, qui atteint avec le 11e rang le meilleur classement de sa carrière. Idem pour Arthur Fils, le Français désormais 14e après son quart de finale monégasque. Fils, Alcaraz, Tsitsipas et consorts qui se retrouvent cette semaine au tournoi de Barcelone, toujours sur terre battue.
Et justement, on reste en Espagne avec la Liga de football et le très mauvais dimanche de Kylian Mbappé.
Si son équipe du Real Madrid l'a emporté à l'Alavés 1-0 pour rester à 4 longueurs du leader barcelonais, l'attaquant français, lui, a vu rouge, celui du carton que lui a adressé l'arbitre du match après sa méchante semelle sur un adversaire. Kylian Mbappé n'avait pas été expulsé depuis la finale de la Coupe de France 2019, un mauvais geste que tentait de comprendre son entraîneur au Real, Ancelotti, oui, mais pas Carlo, Davide, son fils, qui le remplaçait sur le banc suite à une suspension.
D'abord, Kylian n'est assurément pas un garçon violent, c'est quelqu'un qui a demandé pardon, qui est conscient de l'erreur qu'il a commise. Clairement, son tacle mérite le carton rouge et il en a payé les conséquences. Je pense que ce sont les nombreuses petites fautes qu'il a subies dans le match qui l'ont fait réagir comme ça. Ce n'est pas la bonne réaction, je ne suis pas en train de l'excuser, mais voilà ce qui s'est passé.
Davide Ancelotti, Kylian Mbappé risque entre 1 et 3 matchs de suspension. Ce soir, le dernier match de la 31e journée de la Ligue opposera l'Atlético Madrid, 3e au classement, à la Lanterne Rouge Valladolid. On suivra dans le même temps en Italie le duel entre Naples et Empoli, les Napolitains toujours 2e du Calcio, mais désormais devancés de 6 points par l'Inter Milan, vainqueur samedi de Cagliari. Enfin en France, un résultat hier soir, Lyon est allé battre Auxerre 3-1 en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Un succès qui permet à l'OL de conserver sa 4e place tout en se rapprochant une longueur de l'Olympique de Marseille.
Éric Mamrut pour les sports.
RFI. Le Monde à midi.
Le Vietnam, la Malaisie, puis le Cambodge. Le président chinois entame une tournée en Asie du Sud-Est, tournée qui intervient en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Pékin est visé par des droits de douane américains de 145%, sauf pour les produits technologiques. Il n'y aura aucun gagnant, prévient Xi Jinping, qui espère, lui, renforcer la relation entre la Chine et ses voisins. Bonjour Emmanuel Véron.
Bonjour.
Vous êtes géographe spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l'école navale et à l'INALCO, membre de l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est. Xi Jinping est donc arrivé déjà à Hanoï. Jusqu'à quel point est-ce que le Vietnam est un allié important de la Chine, encore plus face à ses taxes américaines?
Je crois que ce qui est important de voir, c'est que on est ici sur la cinquième visite bilatérale d'État de Xi Jinping au Vietnam, ce qui montre bien l'importance, j'allais dire, commerciale, économique, mais aussi stratégique du Vietnam pour la Chine. Rappelons simplement et rapidement que pendant la guerre froide, la guerre d'Indochine d'abord, puis la guerre du Vietnam, on avait une arrière-cour chinoise qui soutenait d'abord le Vietnam, puis le Vietcong, ce qui montre bien qu'on a une articulation assez forte entre régimes communistes par ailleurs, et qui se sont étoffés avec l'ouverture économique progressive depuis 30 ou 40 ans. Donc oui, on a bel et bien une relation singulière. Et ici, Xi Jinping, au travers d'une visite sud-est asiatique, entame cette visite par le Vietnam pour bien marquer le coup et avoir des assurances en matière tarifaire, des assurances en matière d'investissement, des assurances en termes d'intégration économique chinoise et vietnamienne.
On sait aussi que le Vietnam, c'est l'un des principaux pays où la Chine exporte, que la Chine aussi assemble certains de ses produits au Vietnam et que le Vietnam exporte massivement vers les États-Unis. Et le Vietnam, lui, est un petit peu moins concerné par ses droits de douane américains. Donc il y a aussi, j'imagine, un intérêt économique grandissant de la part de Pékin.
Bien sûr, le sujet est intéressant de voir que le commerce sino-vietnamien a progressé de plus de 15% sur l'année écoulée 2024. On est aujourd'hui sur un commerce bilatéral qui est à peu près à 200-250 milliards de dollars, ce qui est considérable à l'échelle du sud-est asiatique, ce qui montre bien l'intérêt commercial, technologique, industriel de la Chine, d'avoir notamment au lendemain de la crise des subprimes 2007-8-9, de relocaliser des chaînes textiles et d'autres secteurs industriels au Vietnam et ailleurs en Asie du Sud-Est. Bref, on a bien cette confirmation de cette intégration économique et d'ailleurs, une bonne partie des marchés consolidés, dont les États-Unis, mais aussi l'Europe, se sont rapprochés ces dernières années du Vietnam, bien parce que l'économie est plus performante, les infrastructures sont meilleures, les logistiques sont renforcées. On a effectivement un Vietnam qui s'est intégré à la mondialisation, notamment par le fait des capacités chinoises depuis 10 à 15 ans.
Et on a un Vietnam aussi, Emmanuel Véron, qui essaie un petit peu, en quelque sorte, on va dire, de ménager la chèvre et le chou, puisqu'il discute en parallèle avec Washington.
Complètement. En parallèle de l'économie que l'on décrivait rapidement, il y a bien des sujets géopolitiques, il y a bien des sujets stratégiques. Et le Vietnam, comme d'autres pays d'Asie du Sud-Est, essaye d'être sur une forme de ligne de crête, d'équilibre, sans complètement se fâcher et se priver des interactions et des dépendances avec le marché chinois et les décideurs chinois, tout autant que la géopolitique américaine en Asie-Pacifique ou comme en Indo-Pacifique, on dirait aujourd'hui, parce qu'il y a bien et bien des tensions entre Chine et Vietnam, et ça peut paraître paradoxal, mais il y a bien des tensions fortes, notamment sur mer, mais également parfois sur terre, ce qui montre bien qu'il y a une ambivalence dans ces relations-là, malgré le renforcement des relations économiques et commerciales.
Et justement, est-ce que les enjeux commerciaux pourraient gommer ces tensions territoriales que vous évoquez, notamment au niveau de la Chine méridionale?
C'est en tout cas la volonté et un des leviers de Pékin. C'est-à-dire que à l'occasion de cette visite, Xi Jinping rappellera le rôle particulier du Vietnam, qui est vu et perçu depuis la Chine comme étant le petit frère, avec des guillemets, sud-est asiatique, largement sinisé et quelque part qui entretient une trajectoire anthropologique commune. Et donc, Pékin va essayer d'activer ce levier du commerce et des technologies pour gommer les tensions existantes en mer de Chine méridionale et même cette agressivité contre le droit international, notamment dans la militarisation des espaces maritimes.
Alors, on parle beaucoup du Vietnam, Emmanuel Véron. Qu'est-ce qu'il en est de la relation avec la Chine, entre la Chine, la Malaisie et le Cambodge? Est-ce que l'entente est aussi cordiale?
Ah, effectivement, le sujet est tout à fait similaire, avec une augmentation d'une part du commerce bilatéral sur les 5 dernières années, hein, où la Chine a fondamentalement pris la première place ou sinon la seconde place en termes de partenaires économiques et commerciaux. Je dissocierais tout de même la Malaisie du Cambodge. Si on reprend le Cambodge d'abord, on a effectivement une sorte d'arrière-cour chinoise, c'est-à-dire que le Cambodge aujourd'hui est largement dominé par l'économie chinoise, y compris jusque dans la criminalité transnationale, avec des réseaux chinois, prostitution, trafic d'armes à feu, trafic d'enfants, blanchiment d'argent, etc., y compris dans les cryptos et le cyber. Bref, on a en une dizaine d'années un Cambodge qui s'est constitué comme étant parfois une base arrière de groupes transnationaux criminels d'origine chinoise. Donc on a bien une complémentarité, un lien très fort entre les dirigeants cambodgiens, la suite de Hun Sen, hein, son fils Hun Manet, avec les dirigeants du Parti communiste chinois. En ce qui concerne la Malaisie, on a un pays qui est asiatique, qui est là aussi largement confucéen, mais avec d'autres influences sud-est asiatiques, notamment musulmanes et anthropologiques, et un pays assez archipélisé, qui est un peu plus loin de Pékin, mais là où Pékin a constitué, là aussi, en matière commerciale et infrastructurelle, des actifs particulièrement importants, notamment dans les transports, dans l'énergie et dans les mines.
Et on verra donc
bien une percée économique chinoise.
Merci beaucoup Emmanuel Véran, on verra comment ça évolue effectivement. Géographe spécialiste de la Chine contemporaine. L'offensive israélienne, elle se poursuit dans la bande de Gaza. Une frappe a mis à l'arrêt l'un des derniers hôpitaux de l'enclave, tuant indirectement un enfant à cause de l'interruption des soins. Dans ce contexte, les Juifs célèbrent la fête de Pessah, les chrétiens la Semaine Sainte. Et puis une autre communauté religieuse, beaucoup moins connue et beaucoup plus petite, célèbre également sa Pâque à cette période, celle des Samaritains. Ils sont environ 800 à ce jour, établis à la fois à Naplouse, en Cisjordanie occupée, et dans la banlieue de Tel Aviv, en Israël. Ils se revendiquent descendants des premiers Israélites, mais pas juifs, et sont détenteurs à la fois de la nationalité palestinienne et israélienne. Au croisement de plusieurs influences, ils forment une communauté à part au Proche-Orient et se sentent forcément tiraillés depuis le début de la guerre. Reportage d'Amira Swilem, près de la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.
Sur les hauteurs du mont Gérizim, c'est jour de fête. Drapé, dans sa longue tunique et sa barbe blanche, le prêtre Hosni Wesef, 80 ans, salue avec déférence chacun des fidèles.
La Pâque samaritaine est l'occasion de célébrer notre sortie de l'esclavage imposé par le pharaon en Égypte. Et chaque samaritain au monde doit participer à cette célébration.
Des bûchers sont allumés, des agneaux sacrifiés. Gaza n'est qu'à une centaine de kilomètres d'ici. Alors, malgré les sourires, l'amertume n'est pas loin, elle non plus. Sa petite fille tenue par la main, Hendrarb, dit ne pas pouvoir s'empêcher de penser à ses compatriotes sous les bombes.
Malheureusement, on va avoir du mal à vraiment profiter de cette journée de fête. Que Dieu prête patience aux mères de Gaza qui ont perdu des enfants ou leurs maris.
À la fois palestiniens et israéliens, les Samaritains sont sur une ligne de crête.
On croit en la solution à deux États, un État palestinien aux côtés d'Israël. Il ne peut pas y avoir de paix sans l'existence des deux pays. Et nous voulons la paix.
À cause de la guerre, les officiels palestiniens invités ont préféré décliner l'invitation. Les Israéliens ont fait un autre choix, occuper le terrain. Des grappes de policiers et soldats en uniforme arrivent. Et enfin, de façon plus inattendue, Yossi Dagan, le représentant des colons, établi en Cisjordanie occupée. Lui qui prône l'annexion des territoires palestiniens, multiplie les selfies et les discours politiques.
Cet événement est une célébration des Samaritains, mais pas que. C'est aussi une fête pour tous les Juifs de Judée-Samarie. On est ici dans un village israélien. Je ne viens pas à titre privé ici, mais en tant que représentant de l'État d'Israël.
Ce jour-là, armes en bandoulière, plusieurs partisans du Grand Israël, comme Ariel et son ami Elad.
On pense qu'une fois qu'on aura reconstruit le temple de Jérusalem, on y tiendra à l'avenir des célébrations similaires à celles d'aujourd'hui.
Oui, les Samaritains font partie de nous en quelque sorte.
Moi, ce qu'ils m'ont dit en tout cas, c'est qu'ils croient dans la solution à deux États. Israël et la Palestine, côte à côte.
Je vais te dire un truc. Ils sont politiquement corrects. Ils vivent sous autorité palestinienne, mais ils ont de nombreux proches à Holland, près de Tel Aviv. Alors, ils essayent de passer entre les gouttes.
Alors que les incursions des colons et de l'armée se multiplient à Naplouse, fief des Samaritains, la pression pour qu'ils prennent position n'a jamais était aussi forte. Amira Swilem, de retour de Naplouse, RFI.
Et c'est un reportage à réécouter sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. Restez avec nous dans un instant. L'actualité africaine, on sera notamment au Gabon après la large élection de Brice Clotaire-Oligui Nguema.
Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes, drames ou comédies avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.